Vous écoutez France Musique.
Bonjour et bienvenue dans le matin des musiciens du vendredi. Bonjour Geoffroy Couteau.
Bonjour Jean-Pierre et les auditeurs.
Et vous êtes venu célébrer notre cher Ludwig van Beethoven pour une sonate, encore une fois. C'est la sonate numéro 21, c'est bien
ça ? Absolument, opus 53.
Opus 53 en ut majeur officiellement. Oui, elle est beaucoup en ut majeur. Il y a un peu de fa majeur aussi. Et elle a un titre, Waldstein. Alors, dans la série des informations People, on vous dira qui est ce Waldstein, parce que pour une fois, c'est pas pathétique, c'est pas les adieux, le retour, ça raconte pas une histoire, c'est dédié à une personne très importante qui était un comte, qui était le premier mécène de Beethoven avant même qu'il ne vienne à Vienne. Et c'est lui qui lui a permis de venir à Vienne. Donc, c'est un homme très important dans la vie de Beethoven. Geoffroy, avant que vous ne jouiez le premier mouvement de cette sonate, qui est un allegro con brio, 302 mesures, eh bien, vous avez eu envie, et j'ai partagé votre envie, d'écouter le premier mouvement de la symphonie héroïque. Peut-être qu'on dira après pourquoi, mais voilà. Ça fait du bien d'écouter la symphonie héroïque.
Même sans raison, ça pourrait être justifiable.
Absolument. C'est parti.
Thank you.
Le premier mouvement Allegro con brio de la symphonie héroïque, la troisième symphonie en mi bémol majeur de Ludwig van Beethoven. C'est le Symphonieorchester des Bayerische Rundfunks qui publie lui-même ses disques. Ce sont des concerts enregistrés avec à leur tête Maris Jansons, qui est un des grands chefs d'aujourd'hui, spécialement dans Beethoven, mais aussi dans Bruckner et dans pas mal d'autres choses. Et ça a été enregistré à Munich, à la Hercules Saal, le 18 et 19 octobre 2012. Alors Geoffroy, est-ce que vous avez aimé ?
Oui, j'ai déjà eu le plaisir de découvrir, puisque ça c'est effectivement une version que je ne connaissais pas. Et je la trouve absolument formidable, oui. De justesse, d'équilibre et d'engagement, à la fois une nervosité qui est sous-jacente et une compréhension immédiate à la fois de la forme et de chacune des cellules. En effet, j'ai voulu et souhaité qu'on entende donc le premier mouvement de l'héroïque. Premièrement, parce qu'elle est contemporaine, hein, de la sonate Waldstein. Qui nous
oui,
occupe.
Parce que c'est la sonate Waldstein qui est le sujet de l'émission.
Ça
n'était qu'un prologue.
C'est ça, ce n'était qu'un prologue. Oui. Et donc la sonate Waldstein, le parallèle qu'on peut faire, c'est l'utilisation de la forme dans le premier mouvement. Ce qui est très proche, c'est que dans l'héroïque, chacune des cellules donne naissance à une autre cellule. Et il y a une espèce de développement comme ça qui est immense, qui est aussi très très grand dans la sonate Waldstein. Et c'est un petit peu le même principe compositionnel qu'il reprend dans la Waldstein. Et l'autre chose qui est très importante, toujours dans la forme, c'est qu'à la fin, la coda, il refait aussi un développement assez grand qu'on retrouve aussi dans la Waldstein. Donc on voit que, en tout cas, sa réflexion par rapport à ce qu'est la forme et comment on peut l'utiliser avec une force d'expression, en est à ce moment-là de ce type de réponse et d'utilisation de la force de la forme.
Ce qui est impressionnant dans les œuvres de cette époque-là, il y a aussi une petite sonate, opus 54.
Oui. La suite.
Et puis ensuite, il y a la Passionata, et puis il y a la Sonata Kreutzer, et en même temps, il y a Fidelio.
Et juste donc, avant, La Tempête.
Voilà. Bon, voilà, oui. Alors, c'est un compositeur qui compose bien, beaucoup. Et ce qui est impressionnant, tant dans le premier mouvement de la Waldstein que dans l'héroïque, c'est l'énergie.
Oui. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ses œuvres de cette période-là, où il y a quelque chose qui est assez révolutionnaire. On a l'impression qu'il avance vers quelque chose et ça provoque une tension qui est gigantesque. Et c'est une des caractéristiques, effectivement, de la sonate Waldstein, puisque le matériau premier va être en fait travaillé sur un rythme tout bête, un espèce de claquement de porte quand on toque à la porte, quoi. Qu'on va reprendre. Et ça, avec une espèce d'obstination et de force, avec des mouvements qui vont être donc mélodiques au début, conjoints. C'est simplement ces trois notes-là, avec cette alternance d'accords parfaits, donc c'est-à-dire un accord parfait, c'est trois sons simplement. Et puis ensuite, il l'enchaîne à une septième de dominante, quatre sons. Et puis, on repasse à l'accord parfait. Et cette alternance, accord parfait, septième de dominante, va être présente pendant tout le morceau.
C'est extrêmement économique comme c'est manière ça. De composer de la musique.
Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que l'identité de la sonate, bien qu'elle soit très variée, la variation est partie de quelque chose, d'un noyau qui est au niveau harmonique le plus simple possible, puisque c'est simplement un enchaînement d'accords parfaits de septième de dominante. Ensuite, il alterne, donc il y a une espèce de force rythmique et ce glissement harmonique qui forme aussi un équilibre qui vraiment souligne le génie de Beethoven, qui va donner à cette sonate un côté vraiment extrêmement puissant et implacable. Alors, tout de suite, on voit aussi que c'est un immense virtuose. Vous avez parlé de l'énergie juste avant. Là, on a parlé de l'énergie rythmique. Mais aussi, Beethoven était quelqu'un qui jouait du piano fantastiquement, qui improvisait. Alors, il y a des histoires qui sont assez drôles à lire, avec des combats, des tournois, ils appelaient ça, où il y avait Steibelt, donc un compositeur qui avait vu certaines variations qu'avait écrites Beethoven. Et puis, il reprend les variations et puis ils improvisent dessus. Et puis donc, évidemment, ça sous-entendait que Beethoven avait pris un thème qui n'était pas vraiment lui, donc compositeur mineur. Et donc, Beethoven écoute, et puis il se met au piano et reprend un quintet que Steibelt avait écrit à l'envers et fait des variations apparemment de manière brillantissime. Et donc, évidemment, l'autre a pesté tellement, était tellement humilié qu'il est parti durant l'exécution.
Mais alors ça, c'est une pratique qui date de l'Italie baroque, les duos, pour savoir qui de Scarlatti ou de Handel était le meilleur. Alors, il y en avait un qui était meilleur au clavecin. Et puis, il y a Bach qui a fait fuir Marchand. C'est une tradition.
C'est ça.
Il y a aussi le goût du piano. Il avait reçu un piano de Streicher. J'ai reçu hier soir votre piano forte qui est vraiment remarquable. Chacun chercherait à le garder pour lui. Et moi, vous allez rire, je devrais mentir si je ne vous disais pas qu'il est trop bon pour moi. Et pourquoi ? Parce que je n'ai plus la liberté de créer moi-même mes sons, que cela ne vous empêche pas de faire ainsi tous vos pianos forte. Il s'en trouvera bien quelques-uns qui auront également de telles sonorités. C'est-à-dire une espèce de puissante rigolardise sur sur ce qui était problématique, ses oreilles déjà.
Tout
à
fait, oui, il commençait déjà à avoir des.
Il faut
des
peut-être,
problèmes.
Avant de vous entendre jouer.
Oui, on va continuer un petit peu, effectivement.
On va faire la rubrique People tout de suite.
Faisons là.
Alors, la rubrique People, pourquoi elle s'appelle Waldstein? Il n'y a pas tellement de sonates qui portent le nom d'un personnage.
Non, c'est très rare. Effectivement, il n'a jamais fait de dommage, enfin, jamais très rarement par rapport à toutes les personnes qu'il a rencontrées. Et Waldstein, c'est vrai que ça a été un conte extrêmement important dans la vie de Beethoven, puisque c'est grâce à lui qu'il a pu s'établir à Vienne, puisqu'il a été recommandé par lui en disant qu'effectivement il recevait de...
Voilà, je vais vous lire la lettre.
Lisez-nous.
En novembre 1792, Waldstein a laissé une inscription dans l'album offert à Beethoven par ses amis quand il partait. « Cher Beethoven, vous allez à Vienne pour réaliser un souhait depuis longtemps exprimé. Le génie de Mozart est encore en deuil et pleure la mort de son disciple. En l'inépuisable Haydn, il trouve un refuge, mais non une occupation. » Ça, c'est joli comme tout. « Par lui, il désire encore s'unir à quelqu'un. Par une application incessante, recevez des mains de Haydn l'esprit de Mozart. »
Oui, tout simplement. Donc cela suffit effectivement à ce que Beethoven s'établisse assez facilement, enfin au début en tout cas, à Vienne. Et donc, il lui a rendu hommage en composant effectivement cette sonate, grâce au comte Waldstein.
Il est rentré dans le grand monde,
voilà, c'est ça.
Alors, il faut dire que la dédicace est la suivante. Grande sonate en français pour le pianoforte, composée et dédiée à Monsieur le comte de Waldstein, commandeur de l'ordre teutonique à Wirnsberg et chambellan de Sa Majesté, Louis van Beethoven, opus 53, à Vienne, au Bureau des Arts et d'Industrie. Et c'est annoncé dans un journal de l'époque le 15 mai 1805. Bon, maintenant qu'on a fait la rubrique People...
Repassons à ce qu'il y a d'un peu plus intéressant.
Mais non, c'est important les rubriques c'est People sûr. Chez Beethoven. Je vous propose, cher Geoffroy, de jouer pour les auditeurs du Matin des Musiciens, c'est sur France Musique, le premier mouvement de la sonate Waldstein, opus 53 en ut majeur, Allegro con brio. C'est parti!
Thank you.
Thank you.
Geoffroy Couteau, pour le matin des musiciens, c'est sur France Musique, dans le premier mouvement, Allegro con brio, de la 21e sonate en ut majeur opus 53 de Ludwig van Beethoven, dédiée au comte Waldstein. C'est fini pour la rubrique People. Maintenant, on va parler de ce premier mouvement. Geoffroy, vous nous avez signalé tout à l'heure qu'il était simple dans son matériau de base. Comment il fait pour tendre quelque chose pendant une bonne dizaine de minutes sans s'arrêter? C'est un peu comparable à l'héroïque pour ça.
C'est ça. C'est que tout s'enchevêtre un petit peu et tout donne naissance à la suite avec cette pulsation incessante et ce battement de croche qu'on va avoir présent quasiment tout le temps. Et alors, si on regarde un petit peu la première phrase, en fait, ce qui est assez curieux, c'est que donc on va rappeler que dans un premier mouvement de sonate, en général, on a deux thèmes et que en général aussi, là, c'est assez fréquent qu'il y ait une petite introduction, quelque chose qui... Et ça pourrait tout à fait passer pour une espèce d'introduction. Et en fait, on va comprendre à l'écoute du mouvement qu'il s'agissait du premier thème. Et ce premier thème donc, est construit, comme je l'ai dit tout à l'heure, par mouvement conjoint, c'est-à-dire que ça se suit. Et ensuite, on a cette cellule rythmique qui va être développée, mais mis à l'aigu. Donc il va se répondre comme ça. Et puis, il va la redire en la décalant, hop, d'un ton au-dessous. Hop, on descend. On passe de ça à ça. Et puis, il la redit à l'identique. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des basses. Qui descendent, en fait, de la tonique à la dominante, et on va s'arrêter à la fin de cette section sur la dominante, paf. Et après, donc on a dit quelque chose, il va le redire avec un effet, comme une espèce de petite variation, qui ressemblerait un petit peu à des trémolos de cordes. Hein. Donc cette séquence-là qu'on a eue, il va la mettre une octave au-dessus, et au lieu de la faire, il va la présenter comme ça. Qu'on a eu ici avec la même harmonie, la même alternance donc d'accord parfait et de septième de dominante, mais cette fois au lieu de descendre les basses, on va monter d'un cran, donc on va passer de ça à ça et on la redit.
Si je vous entends bien, Geoffroy, ça consiste à solliciter la mémoire de l'auditeur à partir d'une permanence rythmique et ça permet d'évader dans d'autres tonalités, dans d'autres espaces du clavier.
C'est ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec une efficacité redoutable, alors si on compare avec les sonates précédentes, c'est la première fois qu'il est aussi rapide. C'est-à-dire qu'en 13 mesures, on est déjà, on a fini la section, en gros, qui était censée établir la tonalité de manière confortable. Et pourtant, on a bien compris qu'on était en do majeur. Et puis tout de suite, on va aller voyager. Et alors, il brouille après les... Enfin, il donne cet effet-là de corde. Et puis après, on va avoir ce pont... Hein, qui va nous amener vers la section du deuxième thème.
Et alors c'est quoi ce deuxième thème?
Alors c'est un choral. Et qu'est-ce qu'il a? Donc une ligne mélodique conjointe, comme le à l'envers,
premier, hein, oui. On avait...
Et la même alternance d'accord parfait et de septième de dominante. Un accord parfait, une septième de dominante, un accord parfait, une septième de dominante, un accord parfait, etc.
C'est-à-dire le rapport tonal le plus simple.
Exactement, le rapport tonal le plus simple, ouais. Et aussi la parenté la plus proche, hein, entre les deux idées qui sont censées s'opposer. Alors, elles s'opposent rythmiquement. On peut aussi noter la parenté de rythme avec la septième symphonie. Hein. Donc ça, ce sont des identités de thèmes. Et puis, l'alternance donc rythmique a été faite, l'identité. Et puis après, bon bah voilà, on va partir, on va avancer. On redit, avec cette fois une nouvelle figure rythmique. Jusqu'ici, on a eu des croches, des doubles croches. On va mettre les triolets. on a dit qu'à cette période, Beethoven est encore en assez bonne santé, en tout cas une très très bonne santé pianistique. Et cette sonate est Allegro con brio. Et le con brio, on le retrouve aussi avec tous ces arpèges. Hein. Qui, en fait, sont une espèce de référence au concerto. Traditionnellement, dans les concertos, il y a toujours des sections où on va montrer sa virtuosité avec des arpèges. Et en général, à cette époque-là, beaucoup de compositeurs les notaient avec simplement la grille harmonique, c'est-à-dire qu'on disait un accord de demi majeur, et puis un accord ensuite, etc. Enfin, mais en gros, le réaliser un petit peu comme une basse continue, une basse chiffrée du baroque. Et là, c'est tout à fait cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a une filiation du concerto avec des figures qui, lui, sont écrites assez précisément et qu'il va développer. Alors, on a vu tout à l'heure que dans le thème, il y avait un espèce de dialogue avec cette voix qui était d'abord dans le grave. Et bien là, il va y avoir cette voix-là qui va passer à la main gauche. Et puis, il y a aussi ce corps. On sent tout de suite ce balancement, ça pulse. Et alors ça, ensemble, encore une fois, l'alternance, accord parfait, septième dominante, qu'on a retrouvé dans le deuxième thème. Donc vraiment l'unité et la variété.
Donc au fond, c'est à peu près la même démarche que le premier mouvement de l'héroïque. D'une certaine manière.
Plus qu'au fond, c'est pensé, voulu, et c'est une manière de composer qui est
en train d'inventer dans ces œuvres-là.
Absolument.
Et il faut rajouter qu'après suivra le quatrième concerto, qui lui aussi, pour piano,
est très proche,
original dans la démarche.
Absolument, absolument.
Ne serait-ce que le fait que les deux derniers mouvements sont enchaînés, il y a plein de choses communes.
C'est ce qui est déjà le cas dans la Wallstein. Donc il fait comme ça des espèces de... Alors c'est ce que disait Barenboim, ce qui est drôle dans une sonate de Beethoven, c'est qu'on passe d'un univers à un autre et que jamais on peut prétendre savoir ce qu'il va inventer ensuite si on n'avait pas la pièce suivante. Et qu'à chaque fois, il se renouvelle. Mais en même temps, il y a quand même des périodes où on retrouve des espèces de trucs comme ça qui le fascinent, je pense, et qui lui permettent
Et il les utilise surtout, ces procédures, il les utilise dans plusieurs formes à la fois. Symphonie, sonate, concerto.
Absolument.
Parfois quatuor. Il y a la sonate à Kreutzer aussi qui n'est pas loin. Et ça, c'est très impressionnant chez lui. Ça.
Oui, qui est très proche en plus dans le mouvement lent, dans la couleur avec les variations. Alors, donc là, nous sommes dans cette section du deuxième thème où la virtuosité se développe. Et donc, j'ai dit qu'on avait eu les croches, on a les triolets, puis maintenant, on repasse au double croche avec toujours ces figures-là qui sont toujours cette alternance d'accord parfait et de septième de dominante. Et puis, à partir de cette section-là, il va commencer à avoir ce son révolutionnaire pour l'époque, ou avec cette gamme qui va descendre. Cette section-là, qu'est-ce qu'elle a de révolutionnaire ? C'est qu'il y a cet accord, un accord parfait, répété 12 fois. Quand il a quelque chose dans la tête, il le redit jusqu'à ce que ça rentre. On pourrait dire que c'est martelé. Et puis, on va évidemment passer à une septième dominante, répéter également 12 fois avant d'avoir ces sauts. Vraiment quelque chose d'extrêmement virtuose et d'une puissance incroyable pour l'instrument de l'époque. Puisque même au piano, on sent que l'instrument, il vibre vraiment dans son
suive.
Entier. Exactement. Par rapport à l'époque, c'était novateur. Il disait que c'était de la folie.
Alors, on regarde toujours ce que disait Czerny, qui a été un élève de Beethoven et qui a transmis Beethoven à Liszt.
Oui.
C'est-à-dire, c'est pas rien tout de même. Il dit qu'il faut respecter le staccato, le legato, le tempo indiqué et surtout veiller à l'usage de la pédale. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la pédale, de particulier dans cette... Donnez-nous un exemple, Geoffroy.
Alors, c'est surtout flagrant, en fait, dans le troisième mouvement. Ouais. Peut-être qu'on en parlera.
Ouais.
Mais, alors, déjà, ce qu'on peut dire dans la pédale, il faut respecter sa pédale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a écrit une espèce de notice, parce qu'à l'époque, donc on était sur des pianofortés, les pianofortés avec des pédales de résonance, c'est-à-dire que les étouffoirs se soulevaient, divisés en deux parties, hein, les graves et les aigus. Mmh. Et lui, il dit, moi, à chaque fois que je mets PED, point, donc pédale, je veux que tous les étouffoirs soient soulevés. Donc déjà, c'est une manière de voir le truc. Où,
ça veut dire qu'il faut avoir deux pieds droits.
C'est ça, tout à fait. Hein, tous les bons pianistes ont deux mains et en plus trois pieds. Et donc, le travail a été après sur la résonance, où il a voulu superposer, mélanger en fait, des accords majeur et mineur. Donc, si on prend cet effet qu'il fait, je vais vous le jouer dans le troisième mouvement, il va mélanger cet accord et celui-ci.
Grâce
donc
à la pédale.
Donc, on a cet accord et puis celui-ci. Et donc, il y a une ambivalence et un frottement qui est, je pense, insupportable pour l'époque. Et c'est vraiment très provocateur. Et d'ailleurs, dans la troisième symphonie, si on écoute bien le début, il y a un fa dièse qui vient se loger sur un accord de sol qui est un frottement aussi assez violent.
Que Wagner a corrigé, d'ailleurs, pendant un temps.
Et donc, la volonté comme ça aussi d'utiliser l'instrument va être très fouillé hein, dans le troisième mouvement. Donc, je pense qu'on pourra y revenir en détail puisque ça fait partie vraiment des caractéristiques. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Czerny, il faut le respecter. Et enfin, c'est pour ça que j'ai
mais
choisi.
Mais Czerny avait été aux bonnes écoles. C'est il ça. Avait écouté Ludwig van vraiment sérieusement.
Tout à fait.
Alors, puisqu'on est dans les rencontres un peu surprenantes, eh bien, voici un autre compositeur pianiste du XXe siècle.
Thank you.
le final de la 7e sonate opus 83 de Serge Prokofiev par Maurizio Pollini. Alors, vous savez, quand on prépare l'émission avec les musiciens que je reçois dans le matin des musiciens, on se téléphone, on se dit, on apporte ça. Et quand, Geoffroy, vous m'avez parlé de la 7e sonate de Prokofiev, je ne vous avais peut-être pas écouté bien comme j'aurais dû. Et j'ai été voir dans le premier mouvement et j'ai dit, mais il est fou, je vois pas le rapport.
Bon, alors, fou sûrement, mais pas à ce point-là.
C'est alors, ça. Le rapport avec Ludwig van Beethoven.
Oui, c'est le côté obstiné de ce rythme-là et puis aussi cette parenté avec le majeur mineur. Il met un accord majeur avec le... Donc il y a vraiment ces deux forces en puissance comme ça, et puis ce côté implacable avec cette direction. Donc voilà,
compositeur pianiste, vraiment
aussi,
là.
Bien sûr. Oui. Et je trouve que c'est assez difficile de trouver un équivalent de cette pièce avec cette couleur et cette densité rythmique qui mm-hmm. pourtant est toute simple. Hein, et m'est venu à l'esprit cette sonate, donc bien postérieure, où effectivement il réclame à l'instrument le maximum, il va au plus large, et on retrouve cette idée dans la Waldstein, dans le premier mouvement, l'endroit un peu stratégique où la tension est maximum, c'est à la fin du développement, où on va avoir le retour du thème.
Vous pouvez nous faire cette fin de développement, la rappeler, parce que là, je dois dire que j'ai été un peu troublé par Prokofiev. Là.
Changement d'univers. Et donc, on va repasser grâce à cet accord qu'il va développer. Donc, on est sur la dominante. Donc, ça, ce sont que des notes... Donc, tension énorme. Et alors, grâce à quoi cette tension énorme est là? Donc, on descend au plus bas du clavier de l'époque, c'est-à-dire qu'on est sur le sol, la note la plus grave.
Et on monte.
On part et on monte en tirant. Alors, vous avez parlé de tendre l'arc. Là, ça ne peut pas être plus, puisqu'il va monter un seul accord, donc cet accord parfait, de dominante, vers la septième de dominante, le Fa le plus haut du piano de l'époque. Et puis, on répète... Alors, donc, cette cellule, 32 fois, on passe de la nuance pianissimo à la nuance d'abord forte. Après, il rajoute des sforzando. On retrouve évidemment les mêmes cellules rythmiques.
Et donc, on est prêt à revenir à la maison.
Et voilà. Et donc, la tension s'accumule avec des sforzando, des fortissimo. Et puis, donc, l'ambitus maximum, la force et la puissance maximum. Une gamme qui descend. Et une gamme qui monte superposée vers cet accord forte et hop, chute. Premier thème. Et c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est le retour certainement le plus théâtral de l'histoire hein, de la musique. Et faire aussi impressionnant et aussi efficace, c'est très 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 compliqué.
En termes de
balance, c'est juste parfait.
C'était un très bon compositeur doublé d'un très grand pianiste. Donc il savait ce qu'il voulait.
Il avait beaucoup de qualités.
Bon, on reviendra. C'est dommage qu'il soit mort, hein, franchement.
Ça.
Bon, si on passait au deuxième et
Tout
au troisième mouvement, ce deuxième et troisième mouvement... Il y a eu un mouvement que Beethoven a laissé tomber, qui était un andante grazioso, et tout le monde lui a dit que c'était pas formidable, qu'il était trop long, que ça fait double emploi. Et il a fait ce qu'il avait encore jamais fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de mouvement lent, parce que ce petit Fa majeur, c'est juste une introduction au final, mais alors qu'est-ce qu'il est dense ? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est intégré au final.
Exactement.
Le mouvement lent dans cette sonate n'est en fait qu'une introduction au final.
Et c'est stipulé.
Ça, c'est nouveau. Hein, quand même.
C'est très novateur.
Et alors, quand on a consulté notre discothèque, vous avez apporté, croyons me faire une surprise, une version de qui ? De Rudolf Serkin.
De Serkin.
Ben, moi aussi, j'ai apporté une version de Serkin, mais peut-être que c'est pas la même. Alors on écoute Rudolf Serkin. Ici, c'est une version donc de Introduzione notée Adagio Molto, qui reprend d'ailleurs le rythme de ce mouvement lent qu'il a abandonné, et ensuite un rondo Allegretto Moderato et qui se termine Prestissimo. Ça a été enregistré en 1975 par Rudolf Serkin dans le Vermont. C'est tout ce que dit la notice. Là, normalement, le public se lève et crie « Bravo !» Mais le public, c'était Geoffroy Couteau et moi, et le pianiste, c'était Rudolf Serkin en 1975, dans l'Adagio Molto et le Rondo Terminal de la 21e sonate en ut majeur, opus 53, dédiée au comte Waldstein, chevalier teutonique. C'est magique, ce qu'on vient d'entendre.
Nous crions « Bravo !» Oui.
Oui.
Ah oui, non, c'est fabuleusement suivi et réalisé, et avec une inspiration vraiment...
Et c'est pas la version que vous avez entendue, apparemment.
Non, parce que moi, c'était une version antérieure, avec une qualité d'enregistrement plus... Enfin, c'est un mono, je sais pas, des années 40. Mm. Et là, c'est vraiment un enregistrement studio où on a le meilleur de lui. Hein. Ça, c'est très, très clair.
Alors, ce qui est extraordinaire, que nous avons admiré, c'est qu'il ne fait pas comme les pianistes qui ne sont pas au clair avec eux-mêmes. Il fait allegretto moderato. Et c'est seulement à la fin qu'il déchaîne tous les chevaux.
C'est ça.
Ça, c'est magique.
En fait, c'est vraiment une... Il y a deux choses qui sont très, très importantes. On a un petit peu évoqué la pédale. Et... Effectivement, allegretto moderato, quand Beethoven met allegretto, il ne met pas presto. Et donc,
il ne met pas allegro con brio.
Voilà. Et si, c'est ça. Et s'il veut qu'il y ait quelque chose qui trace, eh bien, il va l'écrire. Et donc, s'il met allegretto, ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit rapide. Et la particularité de ce troisième mouvement, de ce rondo, c'est qu'on a une espèce d'effet de bourdon pastoral avec la basse qui va être tenue grâce à la pédale. Et en fait, la basse fait partie du chant.
Geoffroy, il me vient à l'idée, quand vous dites ça, que ça devait être probablement compliqué de jouer ça sur un pianoforte, d'avoir cet effet de longue durée, non ?
Enfin, je ne suis pas pianofortiste, mais oui, a priori, en tout cas, la basse devait s'estomper plus rapidement que sur nous.
Donc on avait peut-être tendance à presser pour le coup ?
Je ne sais pas comment il se débrouillait, mais je pense que si on accepte l'idée qu'elle disparaît, ça doit suffire. Mais en même temps, il y a cette couleur en fait et ce mélange avec l'harmonie. C'est ça, c'est un halo qui va être très inspirant pour Liszt. Hein, on l'entend vraiment dans la troisième année, dans les cyprès de
troisième année de pèlerinage.
Oui, c'est assez présent. Et en fait, on a donc cette couleur là. Et ce frottement qu'on a dit majeur, ce mélange d'accords majeurs et mineurs, et c'est pareil, quand Beethoven stipule qu'il veut qu'on garde la pédale tenue, il ne s'agit pas de la sonner. Alors souvent, on entend par exemple ça. Et ici, on va changer la pédale, et puis là, on la rechange. C'est souvent ce qu'on entend, parce que c'est vrai que c'est très désagréable d'avoir, enfin ça pourrait, mais c'est un effet voulu vraiment par Beethoven d'avoir... Dans cette section, le majeur et le mineur se superposent et ensuite arrive une section justement où il met sans pédale et donc il faut jouer sans pédale.
Alors, il y a une chose globalement sur cette deuxième partie de la sonate, puisque l'adagio introductif en fa majeur est très bref.
Tout à fait.
Et fonctionne un peu comme un appel. Il y a une espèce de stratégie, après la colossale énergie du premier mouvement, on se calme, adagio molto, allegretto moderato.
Tout à fait.
Et on envoie les chevaux, comme vous avez dit tout à l'heure, avec le prestissimo
avec
final.
Avec le prestissimo à la fin. Donc là, c'est pareil, on perçoit encore une fois la présence d'esprit qu'il a de l'utilisation de la forme, ou non seulement de faire un mouvement lent qui est comme ça en suspens avec des éléments qui seront proches d'un arioso, avec une hésitation perpétuelle avec une cellule rythmique qu'on retrouve, et puis un chant très simple, très plein, et donc c'est juste ces petits éléments-là qui vont nous mettre en suspens.
C'est quoi la cellule de base de l'adagio ?
Cet cette cellule-là, on va la retrouver avec ce rythme-là, très présent.
Et ça fonctionne comme un appel et on monte.
Exactement. Il y a une ascension avec... on monte dans le registre avec une descente chromatique qu'on a eue vers la dominante, comme dans le premier mouvement. Et ensuite, rentre le soliste qui reprend la même cellule. Et alors là, on peut aussi parler de quelques petites choses qui sont notées. En termes d'indication, Beethoven là, est très généreux puisqu'il y a un rinforzando, des phrasés avec
c'est
des
quoi,
points.
C'est quoi un rinforzando ?
Alors, ça veut dire qu'on doit renforcer le timbre de l'instrument pour donner une coloration chantée, alors que précédemment, on avait une introduction un petit peu orchestrale. Et donc, il veut donner cette idée-là dans ces appels que j'ai joués tout à l'heure. Il y a donc cette masse orchestrale qui
c'est ouvre, du corps, ça.
Et puis arrive et là dans ces petites mesures là il y a énormément d'indications, donc il y a ce rinforzando, il y a ces points sur ces notes là pour indiquer qu'il veut que ce soit expressif, et puis le sforzando à contre-temps. Et donc ça induit un rubato. Et c'est vrai que toutes ces indications sont très fournies et montrent que Beethoven voulait vraiment à la fois un côté simplice, donc très simple, mais en même temps une grande densité d'expression.
Et alors on sait que ce mouvement tel qu'il est là, qui sert de portique au final, ça a été écrit après.
Mais exactement.
Mais c'est sur le même thème que le mouvement qu'il a appelé ensuite
en note. Il annonce complètement le troisième mouvement. Mm-hmm. Et grâce au fait qu'il a effectivement été d'accord avec ses remarques sur le mouvement lent qu'il avait écrit précédemment comme étant trop long, il va avoir cet effet fantastique où à la fin de ce premier mouvement, en fait, c'est de ce mouvement lent, oui. C'est une suspension, on va conclure avec des accords extrêmement simples et extrêmement émouvants. Un accord parfait de dominante avec cet appel et
c'est là, évidemment, qu'il ne faut pas avoir la tentation d'aller à toute allure.
Exactement. Parce que, effectivement, c'est le mouvement qui est le plus développé dans le temps. Oui. C'est un rondo, donc assez simple. On va avoir donc ce refrain couplet qui va être dit beaucoup de fois, avec ses effets de pédale, systématiquement.
Alors, justement, la pédale dans le prestissimo et les trilles.
Alors, il y a cette pédale dont on a parlé et les trilles qui arrivent très vite dans le refrain. À la fin... Alors, c'était révolutionnaire aussi, j'emploie souvent ce terme-là par rapport à cette sonate, d'avoir un tri dans la même main et le thème. Et c'est vrai que c'est une situation de la main avec une extension qui est assez désagréable et ça nécessite une grande indépendance des doigts, mais avec cet effet toujours de la basse qui envoie le thème. Cet élan avec ensuite des fusées. Donc on a quelque chose avec ces gammes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où il développe. La même idée, mais de manière... dramatique.
Alors, Czerny dit que pour le final, vous avez parlé de Bourdon,
oui.
Mais Czerny dit la même chose, il dit qu'elle a un caractère pastoral.
Absolument.
Et
absolument.
Il dit qu'il faut respecter l'utilisation qui est prévue dans la pédale et que la fin doit être jouée le plus rapidement possible.
Oui, puisqu'il marque ensuite à la fin prestissimo. Et en fait, ça veut dire que suite à cette section arrive en fait le couplet qui est là. Et donc là, on est déjà dans une section qui est relativement rapide, avec des interventions avec des sforzando. Là, on est déjà dans un tempo qui est suffisant, et donc ça ne sert à rien de rajouter un tempo qui rendrait la chose virtuose, en fait. C'est pas l'idée, c'est simplement quelque chose qui est tendu, mais qui doit rester stable, à mon avis. Ensuite, il y a une petite chose qu'on peut souligner qui est assez intéressante, c'est la notation qu'il utilise pour justement bien faire comprendre au pianiste qu'il veut que la pédale soit tenue. À la section, avant de reprendre le refrain, à la fin du couplet, on a une section assez spéciale avec ses effets de pédale, encore une fois, où on part de la basse. Et ici, on est dans une mesure à deux temps. 1, 2, donc ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pour que le pianiste comprenne que la pédale doit être tenue jusqu'à la fin, cette mesure-là, il note une croche et après trois demi-soupirs. Or, s'il avait écrit un demi-soupir et un soupir traditionnel qui ferait un temps, on aurait pu couper sur le deuxième temps. Il veut qu'on aille bien jusqu'au bout, il écrit avec un demi-soupir. Donc ça, c'est vraiment une preuve objective que c'était vraiment une décision de sa part et qu'il s'est arrangé pour se faire comprendre. Donc, à mon avis, il faut essayer de le suivre Beethoven.
Ce qui veut dire que non seulement c'est un très grand compositeur, mais c'est un compositeur qui est quand même pianiste-friendly. Il fait attention à ses interprètes.
Même s'il leur demande des choses terribles. Oui, c'est ça. Il explique quand même.
Alors, Geoffroy, on arrive au bout du chemin.
Hélas.
Oui, mais après la 21e sonate, il y a la 22e, la 23e. Il y en a encore pas mal à traiter. Merci, Geoffroy.
Merci beaucoup.
À bientôt. Nous étions en compagnie de Manu Couturier, Amandine Grévoz, Jean-Claude Mullet et Véronique Cardilès. C'est le bon docteur Léo Duroy qui avait soigné le piano avant qu'on s'en serve. Et on vous souhaite tous un très bon week-end à l'écoute de votre chaîne favorite France Musique. Et j'espère vous retrouver à l'écoute vendredi prochain.